Les Canuts, deuxième partie, chapitre 1. Pointez, père Jacquemin, criait Martineau. Pointez bien. Si vous mettez celle-là près du but, c'est gagné. Tenez, par ici. Et, du bout du pied, il chassait les graviers qui auraient pu arrêter la boule. Habit bas, son mouchoir à carreaux attaché à une ganse de son grand gilet à fleurs descendant jusqu'aux cuisses, Jacquemin tenait sa boule de la main droite derrière son dos. Tous les yeux étaient tournés vers lui. Il sentait l'importance de ce qu'il allait jouer. Comme un général inspectant le terrain avant la bataille, il parcourut du regard le jeu de boule. De la main gauche, il rejeta son grand bugne en arrière. Sa résolution était prise. Posément, il fit trois grands pas, qui en valaient six, ferma l'œil gauche, comme un artilleur qui pointe sa pièce, et, abaissant la main droite jusqu'à terre, la jambe gauche en l'air, il lança la boule. Penché, il continuait à la suivre de l'œil. Elle semblait porter trop loin, mais un léger renflement de terrain la ralentit, lui faisant prendre insensiblement la direction du but. « Bonne !» fit Martineau. « Non, trop courte !» cria le père Besacier, du camp opposé. La boule roulait toujours, lentement, et, comme si Jacquemin avait pu la pousser, machinalement il imprimait à son corps un mouvement d'arrière en avant. « Elle tient !» cria Martineau. « 3 et 9, 12, c'est gagné. Nous sommes quittes. À vous autres le but, pour la belle !» Mais le père Besacier, grincheux, réclama. Il n'accordait pas si facilement les points. Le vieux Canu prétendait qu'une des boules de Nerbolier, son partenaire, tenait sur la dernière jouée. Martineau soutint le contraire. Nerbolier et Jacquemin s'approchèrent pour défendre chacun son droit, et les quatre joueurs, 2 contre 2, se crièrent à la figure, agitant les bras, se traitant de tricheurs, appelant les spectateurs et réclamant des arbitres. Enfin, Jacquemin, toujours conciliant, proposa de bider. Martineau mesura les distances avec un bâton. Le bâton n'étant pas assez long, il ajouta sa pipe, une belle pipe en terre toute neuve. Il s'en fallait d'une demi-pipe. La boule de Jacquemin tenait. Incrédule, Besacier voulut mesurer lui-même avec une ficelle qu'il avait dans sa poche. Enfin, de mauvaise grâce, il dut se rendre à l'évidence. Pour cimenter l'accord, on alla chercher dans l'herbe du talus 1 litre de vin, avec un verre à boucher dessus, qu'ils avaient pris, en passant, chez Bouzaquet, l'épicier porte-pot de la rue de la Tour. On se passa le verre, et l'on but à la ronde. Puis la dernière partie commença. « 3 litres d'enjeu !» dit Martineau. « Avis aux perdants, c'est pas tous les jours dimanche. »« Entendu, » répondit Besacier, plaçant sa boule tout près du but. C'était une belle après-midi de février, avec un ciel clair et un bon brin de soleil. La tour Pitra, dominant les maisons d'alentour, se baignait de lumière blonde, et là-bas, le coteau de Fourvière et la grande ville s'enveloppaient de légères brumes grises. Au pied des remparts, flanqués de loin en loin de vieux bastions, sur les talus verdissants du fossé, s'alignaient des spectateurs, ouvriers, petits rentiers de la Croix-Rousse, les uns debout, les mains derrière le dos, les autres assis, attentifs à la partie et jugeant des coups. Le camp de Jacquemin prit d'abord de l'avance et fit 7 points sans en laisser faire un seul aux autres. Puis, le camp opposé se rattrapa par un coup de 5, Besassier ayant tiré le but, et arriva jusqu'à 10. Mais Nerbollier n'était pas en veine, il jouait mal. En 2 coups, le camp de Jacquemin fit 12 points. Quoique vaillamment disputé, la belle était gagnée. Il était 4 heures. Le soleil commençait à baisser et l'air fraîchissait sur le plateau.
« Assez joué, » dit Jacquemin.
Ils déposèrent leurs boules, reprirent leurs habits et quittèrent le jeu, laissant la place à d'autres.
« Vous savez ce qui a été convenu, père Besassier, »
dit Martinon, clignant de l'œil. Besassier grogna. « Ils étaient des sacrés soifards. » Du reste, on n'avait pas à être en souci pour les 3 litres. S'il chicanait en jouant, c'était parce qu'il n'aimait pas qu'on le trichât. Mais une fois qu'il avait perdu, c'était son plaisir de payer. Le vieux Canu prit sous son bras le verre et la bouteille qu'il avait vidé d'une lampée, histoire de chasser la poussière. Et tous 4 prirent la rue de la Tour pour aller rendre à Bouzaquet, disait Nerbollier, ce qui était à Bouzaquet. Devant l'épicerie, ils firent halte. Jacquemin n'en lisait jamais l'enseigne sans s'égayer énormément. « Ici, il n'y a pas du bon vin. Non, c'est le... » Le mot absent était remplacé par un gros chat jaune, grossièrement peinturluré. Autant valait boire les litres là qu'ailleurs. Le vin n'y était pas mauvais. Ils passèrent dans l'arrière-boutique. En entrant, Martinon avait vu à l'étalage des rôtis de fromage fort. Pour ne pas être en reste avec Besassier, il en fit apporter. On les mangerait en buvant, ça ferait trouver le vin bon. Ils avaient pris soif. Le premier litre fut vidé silencieusement. Le père Besassier voulait qu'on appréciât le vin qu'il payait. Il le buvait à petits coups, faisant claquer sa langue contre son palais, et reprochait à Nerbollier de se le verser dans le gosier comme dans un entonnoir. Au second litre, les langues se délièrent. Ils se mirent à causer de leurs travaux, de la situation de l'ouvrier depuis que le tarif avait été annulé. Martinon et Nerbollier se plaignaient fort. Les canuts, disaient-ils, étaient retombés à la merci des fabricants. Et, les journées de novembre oubliées, les patrons recommenceraient à pressurer l'ouvrier. Le gouvernement aurait dû maintenir le tarif, comme une sauvegarde du travailleur contre le capitaliste. « Que voulez-vous ? » dit Jacquemin. « Il ne dépend pas de l'administration de tout changer du jour au lendemain. » Elle nous a donné une plus large place au Conseil des prud'hommes. Avec 8 des nôtres sur 17, on peut se faire rendre justice, pourvu qu'il y ait seulement un honnête homme parmi les 9 fabricants.
Eh diable, tous ne sont pas des filous.
Besassier approuva et cita des exemples. Son gendre avait envoyé un billet de prud'homme à son patron, qui voulait faire lever sa pièce, sous prétexte qu'il n'allait pas assez vite, et le conseil lui avait accordé 8 jours pour la finir. On pouvait donc obtenir justice, si l'on était raisonnable. Puis, maintenant, tout chef d'atelier qui possédait 4 métiers avait le droit de vote.
« Hein ? Qu'en dis-tu, Nerbollier ? » ajouta-t-il, tirant sa tabatière.
Nerbollier répondit avec un hochement de tête. Le père Besassier en parlait à son aise, lui qui était quasi rentier.
son étage lui appartenait. Il avait 6 beaux métiers, dont 4 de façonner, sans compter l'argent placé. Mais les pauvres diables ne pouvaient supporter ni les rabais, ni le chômage. En travaillant tant que dur, ils joignaient à peine les deux bouts. S'il arrivait un accident, une maladie, il serait fichu, puisqu'il n'avait pas d'avance. D'un trait, il avala un grand verre de vin et s'essuya la bouche du revers de sa manche. Besacier haussait les épaules. Des avances. Chacun en avait peu ou prou. Il n'y avait que les mangetous qui n'en avaient jamais. D'ailleurs, pour qui avait-on fondé cette caisse de crédit dont le gouvernement, la ville et le département avaient fourni le capital, sinon pour les ouvriers gênés? Une supposition. Lui, Nerbollier, aurait un ou deux montages à faire. Ses remises seraient vieux. On lui donnerait des couleurs claires, qui demanderaient à n'être pas gâchées, et il lui faudrait des remises neufs. Ses mécaniques auraient besoin de réparation. Bref, il aurait faute d'une centaine de francs. Mais il serait gêné et il ne saurait où prendre l'argent. Alors, il n'aurait qu'à mettre son chapeau et à se rendre à la caisse de crédit. Là, contre sa simple signature, on lui avancerait ses 100 francs, qu'il rembourserait petit à petit sur ses façons. C'était franc, ça! Jacquemin, ne voulant pas être le seul à ne rien offrir, avait fait venir un 4e litre, puis s'était levé, souhaitant le bonsoir. « Il y a encore du courage au fond de la bouteille !» cria Nerbollier. « Ne soyez pas si vif, père Jacquemin. Qu'est-ce qui vous presse ?» Ils voulurent le forcer à se rasseoir et le retinrent par les pans de son habit. Besacier insinuait malicieusement que Nerbollier n'avait rien payé. Il y avait donc encore 1 litre à boire. Mais Jacquemin ne se laissa pas tenter et donna ses raisons. Il était fâché de les quitter si tôt, mais il le fallait. Depuis quelques jours, sa bourgeoise était plus malade et gardait le lit. Elle avait comme quelque chose de décroché dans l'estomac. Lui n'était sorti que pour prendre l'air un moment, pour ne pas tomber malade à son tour. Car il se fatiguait, à la longue, d'être toujours enfermé. Sans quoi, bien sûr, il serait resté à lui tenir compagnie. Les autres n'insistèrent plus. S'il en était ainsi, il n'y avait rien à dire. On ne pouvait pas le garder malgré lui. Ils trinquèrent une dernière fois, et, après des poignées de main, il les quitta. Traversant la boutique, il tira de son gousset 8 sous, qu'il donna à Bouzaquet, pour le litre qu'il avait fait venir. Une fois dehors, il longea la rue Masson et prit la rue Néré. Des ménages d'ouvriers s'en allaient, lentement, rentrant chez eux. Autant Jacquemin était gai tout à l'heure avec ses camarades, autant il songeait tristement, en cheminant tout seul, tête basse, au milieu de la chaussée. Il fallait donc qu'il y eût toujours quelque chose pour vous tracasser. Après le chômage, l'insurrection. Et à peine avait-il eu le temps de respirer que sa pauvre femme tombait gravement malade. Enfin, il ne fallait pas se faire de mauvais sang, ça n'avancerait à rien. Et, résigné, il tâchait de se faire une raison. Il faisait nuit quand il arriva à sa porte. La bise s'était levée. Agitée avec violence, les réverbères se balançaient au milieu de la rue. À tâtons, il monta l'escalier obscur aux marches usées. Il connaissait les êtres. Un matou qui faisait le guet lui glissa entre les jambes. Au 3e, il tourna à droite. Guidé par une raie lumineuse qui brillait sous la porte, il saisit le loqueteau et poussa. « Bonsoir à tous, » dit-il. Et, se dirigeant aussitôt vers l'alcôve, il alla prendre des nouvelles de la malade et pressa affectueusement la main qu'elle lui tendait. « Ne la faites pas parler, » dit Louise à mi-voix. « Ça la fatigue. » Et elle lui dit que, la mère n'allant pas mieux dans l'après-midi, Marius était allé chercher le médecin. Celui-ci avait tâté le pouls de la malade, l'avait fait tousser en écoutant, l'oreille contre son dos, et finalement était parti laissant son ordonnance. Une potion à prendre en deux fois. Comme la mère se plaignait de la soif, le médecin lui avait permis de boire de la tisane de tilleul. Ça la calmerait. Une tasse à la main, Louise remuait lentement le liquide avec une cuillère pour le faire refroidir. En bonne voisine, elle était venue dès que la mère avait été plus souffrante. Depuis 5 jours, elle était là, ne retournant chez sa mère que par instant, pour voir si on n'avait pas besoin d'elle. Mais Madame Dénégris la renvoyait toujours, disant qu'elle n'était, Dieu merci, ni manchotte ni paralytique, et qu'elle se tirerait d'affaire toute seule. Jacquemin passa dans la chambre pour quitter son habit. Depuis que sa femme était alitée, il partageait la couchette de Marius. Dans l'atelier traînait une odeur d'hôpital. Il y avait 5 jours qu'on avait ouvert les fenêtres, de peur de faire prendre froid à la malade. Et à l'air vicié par les respirations humaines, se mêlaient des odeurs rances de cuisine. Près du petit poêle qui ronflait, Marius, le front soucieux, épluchait des légumes pour la soupe. De temps en temps, il jetait un coup d'œil vers le lit, près duquel Louise allait et venait. Il lui savait gré de ses soins délicats. Elle n'eût pas eu plus de dévouement pour sa propre mère. Auparavant, il l'estimait comme une bonne et gracieuse fille qu'elle était. Mais à présent, il éprouvait pour elle une grande reconnaissance. Il était profondément ému. Il comprenait que, s'il avait le malheur de perdre sa mère, il lui resterait une petite sœur pour le consoler. Le père reparut avec son gros tricot et son bonnet, prit une chaise et vint aider Marius à peler les pommes de terre. La tisane était bonne à boire. Louise la présenta à la mère. La pauvre femme se souleva sur son séant et but lentement, s'arrêtant suffoquée après chaque gorgée. Sur la blancheur des draps, sa figure semblait plus bouffie et plus jaune. Quand elle eut vidé la tasse, Louise releva le traversin, la fit recoucher, reborda soigneusement les couvertures, puis vint s'asseoir près du poêle. Le père la regardait avec admiration. Doucement, il lui tapa sur l'épaule. « Louise, dit-il, tu es bien la meilleure créature du bon Dieu. Que tu ferais une bonne sœur de charité. »« Moi ? Oh que non ! Je suis bien trop gourmande. Mais c'est bien naturel que je soigne votre dame. Elle a été assez bonne pour moi quand j'étais petite. » « Ne vous défendez pas, Louise, » dit à son tour Marius. « Qu'est-ce que nous ferions si vous n'étiez pas là ? Les hommes sont trop maladroits pour soigner les malades. » Elle baissait la tête, rougissante, sous ses cheveux blonds. Rien ne pouvait mieux la récompenser de sa peine que ces paroles de Marius. Depuis l'insurrection, peu à peu, sans qu'elle s'en fût rendue compte, sa tendre affection pour lui s'était changée en un sentiment plus vif qu'elle n'avait jamais éprouvé pour personne. Près de lui, elle était heureuse et serait restée des heures à l'entendre parler. Mais elle eût été confuse de laisser deviner ce qu'elle ressentait. 8 heures sonnèrent. Louise se leva,
et retourna près du lit. « Allez-vous mieux à présent, Madame Jacquemin ?»«
Je ne souffre pas, »
murmura la malade.
« Mais je me sens bien faible. »
« Le tilleul vous a calmé. » La jeune fille était inquiète. Cette grande faiblesse n'était pas bon signe. Avec 1000 précautions, elle demanda à la mère s'il lui serait agréable de recevoir le lendemain la visite de monsieur le curé. La malade fit un signe affirmatif et son visage résigné s'éclaira d'une lueur de contentement.
« Eh bien, j'irai le prier de venir, » ajouta Louise.
Elle glissa sous le traversin une bouteille de tisane chaude. La mère en boirait quand elle aurait soif. Puis, elle lui souhaita une bonne nuit et s'en alla sans bruit, disant bonsoir aux hommes. Accroupi près du poêle, ils l'entendirent traverser le palier, ouvrir et refermer la porte. Et tout rentra dans le silence. Seule, la grande horloge de l'atelier, dans son étroite gaine, battait les secondes avec un grincement monotone. Comme tiré d'un rêve, le père, brusquement, prit la lampe, l'approcha du poêle et souleva le couvercle de la marmite.
« Coupe le pain, Marius, » dit-il d'une voix découragée. « La soupe est cuite. »